9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Je vous retrouve en ce début janvier 2024. Je vous souhaite une belle et heureuse année, qu'elle soit douce et lumineuse pour chacun, chacune des auditeurs qui, et à vous aussi, Salma Guettaf, qui êtes l'invitée, la première invitée de l'année. Évidemment, je vous souhaite le meilleur dans l'écriture, puisque nous parlerons de littérature tout au long de cette émission. Mais surtout dans ce fracas du monde, espérer la paix, c'est aussi essentiel à dire aujourd'hui. Oui. Une excellente santé donc à tous et à toutes. Salma Guettaf, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invitée et la première de cette année 2024 et nous allons parler de littérature. Et j'avais vraiment envie de parler avec vous de littérature dans une grande dimension. Ça s'appelle une masterclass, c'est-à-dire que on va faire le tour, le contour de vos écrits. On a eu l'occasion de se rencontrer, hein, Salma Guettaf, c'était pour votre livre « Les hommes et toi » qui était un récit sensible, sincère, tourmenté, comme le dit une bande sur votre ouvrage. Mais c'est vrai que c'était un livre très intéressant, que c'était une première découverte dans votre écriture. On s'était revu aussi au Maghreb des livres. En tout cas, on avait de bonnes raisons de partager des moments littéraires avec vous. Vous présentez donc, vous êtes autrice, vous avez grandi en Algérie et vous avez déjà commencé d'ailleurs ce travail d'écriture en Algérie, puisque vos premiers romans ont été un ou deux, en tout cas.
Un premier récit, oui.
Le premier récit a été publié en Algérie et ensuite vous avez quitté, vous y avez fait vos études de lettres et vous êtes venue il y a 6-7 ans en France.
Un peu plus maintenant. Oui.
Alors la biographie que j'avais n'était pas à jour, faudrait le dire. En tout cas, vous êtes maintenant en France, établie et vous avez publié d'autres livres depuis. Vous avez, dans une autre facette de votre création, mené un travail de recherche en sociologie, du cinéma. Aujourd'hui, vous êtes plus dans l'écriture romanesque, mais vous êtes aussi dans une réflexion autour de l'écriture, comment écrire, quoi écrire. Et c'est de ça qu'il est important et intéressant, surtout pour nos éditeurs, dans ce que vous faites, dans l'approche que vous faites sur la création littéraire. Alors, vous vous souvenez de votre écriture en Algérie, le temps où vous étiez, parce que vous êtes bien jeune hein, quand même, et vous étiez jeune et vous commenciez à écrire en Algérie, donc comment on vient à l'écriture?
Oui, je me souviens, donc j'étais jeune, il y avait donc Internet à ce moment-là, je pense que ça a aidé un petit peu parce que très vite en fait, donc je m'étais mise à m'inscrire en fait au sein de communautés, donc sur des plateformes, il y avait les blogs par exemple, c'était à la mode, et donc quelque part c'était cette recherche de critique constructive parce que j'avais un peu conscience de l'importance de la lecture et des retours en fait constructifs. Comment donc on peut lire quelqu'un qui commence et comment on peut lui donner un avis qui va lui permettre en fait donc d'avancer, donc pas juste dire ah c'est super ou ça ne me plaît pas. Ça je crois que c'est le résultat de discussions littéraires que j'avais avec ma mère, donc c'est, je pense que c'est elle qui m'a appris à lire, à commenter, et donc je me suis servie d'internet mais aussi de rencontres littéraires parce que j'allais à des rencontres littéraires dans des librairies, donc j'étais attentive au débat. Je me souviens par exemple d'un concours dans une librairie à Oran, donc je m'étais inscrite avec mes textes et voilà, il s'agissait de lire, d'être à l'écoute des retours, donc et ça c'est un super souvenir pour moi.
Donc une période où vous êtes dans le début de la création, vous êtes dans l'écoute d'autres auteurs. Quels sont vos auteurs de chevet?
Alors d'autres auteurs et critiques littéraires surtout. Donc je pense par exemple à mon éditeur Lazare Laptar à l'époque, donc qui est auteur
magnifique,
et poète.
Auteur et éditeur algérien.
Oui, il y avait
qui hélas maintenant n'a plus d'activité éditoriale, il me semble.
Effectivement.
Où il a repris pendant un moment, il avait arrêté, il a dû reprendre.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui il se consacre à l'écriture. Je pense aussi à Mostafa Benfodil, donc je m'étais construite avec ses romans. Aussi j'étais attentive à la question de la critique littéraire. Je surveillais aussi cette production-là de comment on pense le texte et comment on peut mettre des mots sur le texte. Ça me paraissait incroyable parce que justement la création littéraire c'est quelque chose de subjectif, c'est l'art, et donc on écrit quelque chose qui est avant tout qui sort de nous, et comment donc on va commenter, comment on va mettre des mots sur cette production là est-ce qu'on se réfère à la vie de l'auteur, est-ce qu'on se réfère à un contexte, est-ce qu'on tient compte juste des mots. Et donc je découvre petit à petit comment en fait on réfléchit à propos de cette production littéraire, et ça a été très intéressant,
cette production littéraire en Algérie, puisque vous venez de parler de cet éditeur qui vous a publié, d'ailleurs, c'est lui qui vous a publié.
Oui.
Il y a un autre éditeur qui vous a publié, les éditions APEC.
Oui, ça a été APIC.
Voilà, APIC. Et ces éditions en Algérie, elles ont fleuri quand même. Hein. On peut se satisfaire au moins dans ce temps où vous étiez en Algérie, d'avoir pu voir toute cette production littéraire, les éditions Casbah, les éditions les éditions de Sofiane, dont la
Balzer,
maison
je crois. Oui.
Alors, Barzac, les éditions Barzac, qui font des coéditions avec l'édition française. Oui. Ça aussi, c'est important de souligner que la littérature algérienne, elle est aussi quelque part dans la production de la littérature française.
Oui.
L'importance de la francophonie, toujours.
Clairement. Moi, c'était vraiment intéressant pour moi que je débute donc dans ce champ-là littéraire algérien, que je découvre aussi les maisons d'édition algériennes. Alors, j'étais pas novice parce que j'étais à ce moment-là dans la presse écrite francophone. Donc, j'écrivais dans la rubrique culturelle. Donc, je connaissais un petit peu quelques maisons d'édition. J'avais des amis autour de moi qui travaillaient, par exemple, dans le milieu de la bande dessinée. Donc algérienne, donc qui connaissait aussi cette activité éditoriale, on en discutait. Donc c'est vrai que quand il a été question de montrer mes textes, j'avais des pistes en tête grâce à des recherches personnelles, grâce à des discussions avec des amis. Et ça a été intéressant vraiment de commencer de cette façon-là, donc d'avoir mon premier éditeur, Lazare Labtar, qui m'a dit que ça a été un coup de cœur, donc mon manuscrit. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que quelque part, ça m'intéressait d'être à la recherche de maisons d'édition sensibles à une littérature francophone africaine aussi. Donc ça a été le travail d'APIC. Donc tourner quelque part et intéresser par des collaborations avec d'autres maisons d'édition dans le Maghreb, dans des pays africains. Je voulais en fait découvrir des auteurs africains, et ensuite aussi aller vers des co-créations en Europe par exemple.
Alors justement, ces éditeurs algériens qui vous ont publié, ils ont continué de publier d'autres. Ça s'est passé aussi dans l'autre sens. Il y a des éditeurs, comme on dit, issus d'immigration algérienne, puisqu'on parle de l'Algérie, vous venez d'Oran. Je pense à Clit Hadjer, par exemple. Clit Hadjer est né en région parisienne, fils d'immigré, il écrit une histoire romanesque, qu'elle soit pas de son histoire singulière, de d'autres imaginaires, et il va être édité en Algérie. Donc cet aller-retour est intéressant aussi. C'est dans les deux sens aussi que ça se passe.
Mais oui, c'est très intéressant. Je crois que c'est pas évident, mais c'est super d'en avoir conscience, de chercher en fait ces coéditions. Je disais, c'est pas évident parce qu'en fait, pour un auteur, en fait, il y a un contrat et tout est dans le contrat.
Est-ce qu'il va trouver le lectorat?
Mais avant le lectorat, oui, il y a cette question du contrat, parce qu'en fait, toutes les maisons d'édition ne sont pas toujours d'accord. Parfois, les maisons d'édition veulent détenir tous les droits. Donc, c'est-à-dire que quand on veut aller, pour justement toucher d'autres lecteurs, dire à sa maison d'édition, moi, je veux garder les droits, par exemple, par rapport au Maghreb, ça va être une discussion. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut tenir compte, et il faut y penser avant la publication de son livre. Donc c'est intéressant, bien sûr, de pouvoir effectivement discuter avec sa maison d'édition. Les auteurs aujourd'hui en ont conscience. Je crois que les maisons d'édition aussi, parce que justement, on pense à la disponibilité du livre. Comment un livre qui sort, par exemple, en France, peut être disponible dans le Maghreb. Donc, comment on va faire? Est-ce que c'est une cession de droit? Est-ce que c'est une coédition? Et donc, c'est là où effectivement, on a besoin d'être accompagné par les professionnels des maisons d'édition et qui vont penser avec nous comment rendre ce livre disponible. C'est important. Oui.
Parce que vos livres, est-ce qu'ils sont publiés en arabe en Algérie? Alors, il n'y a pas eu des traductions en arabe?
Non. Aujourd'hui, non. J'ai eu l'occasion d'avoir ces échanges. Je pense notamment à un ami donc qui est traducteur, donc professeur à l'université à Alger. Donc on a parfois ces discussions, mais pour le moment, il n'y a pas eu concrètement de traduction.
Ouais. Ben, ça arrivera peut-être, parce que c'est ça aussi. Voilà, de la littérature francophone qui est traduite en Algérie, ça devient évidemment intéressant comme support de... On va continuer dans une deuxième partie avec vous, autour de votre écriture. On va rentrer là dans la phase de l'écriture, comment naît l'écriture. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'effectivement en Algérie, quand vous étiez en Algérie, vous avez surtout fait des rencontres littéraires avec des auteurs. Après, vous êtes passé à l'écriture. Mais qu'est-ce qui fait que le déclic s'opère pour que vous passiez à la page blanche ou à l'ordinateur à écrire?
Qu'est-ce qui a fait ce déclic? Je pense que c'est lié à tout un parcours de vie, à une enfance, à une adolescence, à comment j'ai grandi. Je pense qu'adolescente, j'avais quand même beaucoup de questions. Je trouvais pas toujours les réponses. J'ai eu vraiment la chance de grandir dans une famille où il y avait des livres. Je lisais beaucoup. J'étais assez seule, donc il y avait, je pense, toujours ce sentiment de solitude. Et donc je lisais beaucoup.
Vous trouviez dans les livres?
Justement, c'est de là qu'est venu ce désir d'écrire et ce besoin, parce que je ne trouvais pas forcément les réponses dans les livres. Dans les livres, j'étais transportée, c'était génial. J'apprenais des choses, j'apprenais à penser le monde à travers le roman, mais il y avait demeuré donc ces questions personnelles qui me concernaient moi en tant qu'adolescente à l'époque, algérienne, au sein d'une famille, donc où l'on ne communiquait pas toujours. Donc j'avais beaucoup d'interrogations et c'est comme ça qu'est venue mon écriture, je pense.
Vous aviez quel âge?
Peut-être bien 13-14 ans.
C'est souvent la question qu'on pose aux auteurs. Hein. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire et ce déclic que je nommais? On va rentrer peut-être dans le premier texte que vous avez envoyé. C'était le texte que vous envoyez à un éditeur algérien.
Oui.
Alors on l'envoie par la poste, par mail, mais oui. Il y a des éditeurs qui aiment recevoir des manuscrits, c'est-à-dire effectivement le fameux manuscrit d'hier.
Oui, alors aujourd'hui encore, l'envoi postal reste. Mais ce n'est plus, en fait, on continue à utiliser le mot manuscrit, mais en réalité, ce sont des tapis.
Ah oui, ils sont tapés, oui, le manuscrit, vous pouvez rappeler à la plume, mais quand je dis manuscrit.
Aujourd'hui,
non. Je connais une autrice qui envoie ses livres.
Oui.
Manuscrit.
Ah, ça, sérieusement. Voilà. Parce que c'est intéressant, je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, on lit encore des textes écrits à la main c'est intéressant.
Elle s'appelle Leïla Sebar, elle me l'a confié à ce micro. Vois. On vous retrouve dans un instant, Selma Guettaf. Je rappelle qu'elle est l'invitée de Voix au chapitre ce dimanche matin et nous parlons de littérature et de l'art d'écrire, la manière d'écrire, l'envie d'écrire. Et c'est de cela qu'il est question et nous allons, dans une deuxième partie de l'émission, la retrouver avec des lectures de ses livres.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM. 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Vous êtes toujours sur Beurre FM, c'est Voix au chapitre. Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Selma Guettaf, elle est autrice. Et nous parlions dans une première partie de l'émission de ce qu'était ce milieu de l'édition, de l'écriture, de comment naît un livre, d'abord comment naît votre écriture, et ensuite la publication. Donc j'ai sous les yeux ce livre « Les hommes et toi ». De votre livre, Selma Guettaf, vous me rappeliez qu'il avait été donc publié en Algérie en 2016 chez l'éditeur APIC,
oui.
Et qu'ensuite il avait voyagé, si je puis le dire ainsi, pour être publié en France. Donc un autre lectorat, une autre ouverture sur un public français, de fait, puisque le livre est publié en France, aux éditions Most.
Alors, la particularité, c'est qu'en fait, c'est une maison d'édition qui est en Belgique, donc ça a été un peu une surprise, donc des rencontres. Mais effectivement, donc il est disponible en France, en Belgique. Mais ça a fait aussi que, voilà, à ma grande surprise, je suis allée donc rencontrer des lecteurs belges. On a fait, par exemple, des salons. Ça a été très intéressant.
D'accord. Donc c'est important pour vous qu'il y ait cette multiplication d'ouvertures francophones, donc, parce qu'il est en Belgique aussi, donc il est peut-être au Canada un jour en distribution.
Pour moi, c'est vraiment intéressant, c'est ma démarche et ça continue. J'aime en fait le multiculturalisme, j'ai conscience de mon parcours, comment il s'est construit et je veux en fait continuer dans ça. Donc ça vient me nourrir, ça vient nourrir mon acte d'écriture. Au départ, mon écriture, elle était très intime, c'était le jeu, certes J-E, moi, mais aussi donc l'autre. Donc ce jeu, je le construisais à travers des rencontres. Et aujourd'hui, à travers mes voyages, à travers mes collaborations, comme donc avec la maison d'édition Most, je continue en fait à aller vers d'autres rencontres et ça vient nourrir ce récit intime. J'ai eu par exemple l'occasion de donner des ateliers d'écriture en collaborant avec un magazine franco-colombien. Donc là encore, à chaque fois, c'est un autre lectorat, mais ce sont aussi donc des échanges et c'est ça la littérature.
Dans ce que vous dites là, vous convoquez aussi l'intime dans votre écriture. Vous le rappelez que c'était quelque chose, parce qu'on n'est pas dans le roman fantastique. On est dans de l'imaginaire, certes, mais on n'est pas dans du fantastique. On est dans quelque chose de très biographique, de très personnel, d'une certaine manière.
Oui.
Vous allez nous parler là de ce titre-là, Les hommes et toi, donc ce livre qui est publié maintenant ici. Vous allez nous en lire un extrait. Vous nous rappelez d'abord, avant de lire un extrait, de quoi il s'agit, un petit peu son contour, de toute façon à ce qu'on soit au fait dès votre lecture de ce qui se raconte comme histoire et comme
Alors, c'est quelque part une écriture auto-fictionnelle. Donc, c'est ce que j'essaie de pratiquer. Donc, à la fois, donc le jeu J-E, mais se permettre effectivement d'inventer. Et dans Les Hommes et Toi, c'est quelque part l'histoire d'un deuil. Et ce deuil, donc, va réunir la sœur et le frère dans l'appartement de leur enfance. De là, donc, il y a quelque part une forme de violence. Mais il va y avoir aussi leur donc séparation assez brutale. Et en même temps, donc, ils n'arrivent pas à se construire sans l'autre. C'est ça que raconte ce récit.
Alors, on va vous écouter dans un extrait et vous le situez peut-être par rapport à l'histoire.
D'accord. Alors, l'extrait que je vais lire, donc ça concerne le personnage de Nihed, donc la sœur, parce que le roman est construit sous la forme d'un diptyque. Il y a deux parties, il y a la partie Nihed, la sœur, et il y a la partie Ryan, le frère. Et quelque part, une partie est le reflet de l'autre, donc il y a deux points de vue sur les mêmes événements. Donc je vais lire un extrait qui concerne Nihed. Elle finit par installer son matelas devant la porte. Elle pouvait de cette manière entendre l'ascenseur qui brinque-ballait, les voisins qui montaient ou descendaient les escaliers, les téléviseurs allumés dans les appartements, les conversations bruyantes et les rires fous, les cris des gamins, à défaut de la respiration de Ryan. Elle passait ainsi une bonne partie de la nuit à écouter les autres vivre. Les images manquaient, mais elle les imaginait étonnamment joyeux, chez eux. Elle se sentait ainsi proche de la vie, en sécurité et beaucoup moins seule. Vers minuit, quand il n'y avait déjà plus grand bruit, elle se mettait à espérer stupidement qu'une catastrophe réveille le voisinage. Elle avait envie de regarder Ryan dormir, de renifler ses cheveux bouclés d'un bleu de minuit, de caresser sa mâchoire, appréciant la rugosité des poils parsemant sa peau, la longueur de ses cils, l'enfoncement de ses pommettes, de partager avec lui un café ou du chocolat chaud. Une forme, la forme de son corps. Elle s'approchait jusqu'à la discerner. Elle était persuadée de la voir, là, au pied du lit, ou sur le tapis, à la narguer du regard, pour ensuite s'évaporer comme une vision surréaliste, sans doute un des effets du Lexomil.
Selma Guettaf, je vous regarde quand vous lisez un extrait de votre livre et vous êtes très prise dans la lecture même, dans votre visage. On voit l'expression de ce que vous avez écrit vous-même. Encore aujourd'hui, il vous porte ce texte donc. Les textes portent toujours l'auteur finalement.
Je crois, oui. On ne peut pas se débarrasser de ces textes, même si on essaye un peu d'oublier l'histoire quand on commence un nouveau manuscrit, parce qu'il y a toujours cette idée de vouloir en fait aller plus loin, explorer d'autres idées en fait. Mais d'une certaine manière, et Nina Bouraoui le dit, moi je me retrouve un peu dans comment elle parle de ces textes. Elle dit quelque part que on reste un peu dans le même thème. C'est presque comme un défaut, c'est-à-dire l'auteur, quand il est dans une écriture auto-fictionnelle, il explore et réexplore encore. Et en même temps, ben, c'est intéressant parce qu'on trouve toujours d'autres choses en fait à raconter. Et pour moi, c'est comme en fait une rencontre avec un personnage ou des personnages. Donc j'invente ces personnages et j'ai l'impression de les rencontrer, de les connaître et donc d'avoir vécu avec mes personnages. Ce sont des êtres pour moi. Donc je sais que ce sont des êtres de papier, mais au fond de moi, je ne peux m'empêcher de me dire que ce sont des êtres.
J'ai lu de vous que vous aviez le sentiment et l'importance d'écrire vite. Pas écrire vite au sens pratique, mais écrire vite, produire et nécessiter une urgence d'écrire. Il y a en permanence ça bourdonne chez vous dans votre esprit.
Oui, j'essaie de ralentir, mais j'y arrive pas. Je suis dans le monde littéraire, j'ai l'impression d'être tout le temps dans la précipitation par rapport à tout, c'est-à-dire y compris mes échanges, par exemple avec les maisons d'édition, enfin avec mon éditeur, par exemple aujourd'hui je me rends compte quand j'évoque mes textes, je vais très vite et j'ai l'impression qu'on arrive à me suivre, mais peut-être pas parce que en fait ça bourdonne comme vous avez dit. Donc j'ai commencé mon parcours de cette façon et ça continue toujours. Mon écriture est très précipitée. Mon rythme, en fait, le rythme avec lequel j'aborde les rencontres littéraires ou quand je parle de mes textes, j'ai l'impression que ça caractérise ma démarche, comment je suis, quelle est ma place en fait dans ce monde littéraire. Et en même temps, c'est quelque chose dont j'ai conscience et je ne sais pas, ça me porte et je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose, mais en tout cas j'en ai conscience. J'ai l'impression en fait, je sais aussi que mon premier récit est sorti après le décès de ma mère, ça a été un élément important dans ma vie et je sais qu'avant de perdre ma mère, j'étais pas pressée à ce que quelque chose de moi sorte. Je voulais découvrir le monde littéraire, mais je me disais, tu as le temps en fait, tu as le temps, concentre-toi sur tes études, sur ta vie personnelle, sur les rencontres. Et quand en fait il y a eu cet événement-là, tout à coup je me suis dit, mais en fait non, demain peut-être je serai plus de ce monde, ce qui est bien sûr une forme d'angoisse, mais depuis c'est quelque chose qui me quitte pas, c'est-à-dire que tout le temps j'ai besoin d'écrire et j'ai besoin de parler de ce que j'écris, et donc quand effectivement je lis ça ou quand j'en parle, ça ressort.
En tout cas l'émotion, c'est important. Un livre est une émotion, de toute façon une lecture est une émotion de peine, de joie, de rire, quand c'est ça peut être un récit qui peut être drôle, ça peut être un récit qui peut être monstrueux, voilà, on a une émotion en lisant de toute façon. Pour poursuivre un petit peu dans cette interrogation sur ce rapport à l'écriture que vous avez, on va écouter dans une troisième partie Plongeon et autres sauts, qui est là une autre écriture. Hein. On est là dans, pas dans un récit, on est dans un roman, dans une fiction. Là, on est dans des interrogations, parce que vous avez cette partie un peu, si je puis dire, essayiste sur la question littéraire, on va le dire comme ça. Donc vous vous interrogez quand vous écrivez et puis vous interrogez l'écriture de manière générale, c'est ça?
Oui. Ça m'a aidé en fait dans mon parcours de me poser parfois la question, qu'est-ce qu'un roman? Et j'aime en discuter avec des amis. Qu'est-ce qu'écrire aujourd'hui? Pourquoi on ressent ce besoin d'écrire? Et en fait, j'aime beaucoup poser cette question à des personnes qui créent, que ce soit des auteurs ou parfois des personnes qui sont dans l'art de façon générale. Pourquoi en fait tu ressens ce besoin de créer, et on peut avoir, on peut récolter différents avis, et de là est venu Plongeon, parce que
on va en parler dans un instant. Plongeon et autres sauts. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Selma Guettaf. Nous allons parler de ce deuxième livre. Et tout au long de l'émission, nous évoquons avec Selma Guettaf cette écriture, ces écritures d'une certaine manière. On la retrouve dans un instant. Poursuivons notre rendez-vous. C'est Voix au chapitre et c'est dimanche. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Selma Guettaf et nous parlons de littérature, de son écriture, de ses écritures, puisque nous allons faire une rencontre là avec une lecture de son dernier ouvrage qui s'appelle Plongeon et autres sauts, qui est une autre forme d'écriture. Si vous le voulez bien, Selma Guettaf, vous nous rappelez de quoi il s'agit, ensuite nous donner lecture de Plongeon et autres sauts.
Alors, quelque part, c'est la rencontre entre le roman et l'essai. Donc, j'ai voulu inventer, donc c'est écrire une fiction. Il y a le jeu dans ce roman, J.E., j'invente un auteur, donc narrateur-auteur, qui a un parcours de vie et un parcours littéraire un peu fou, parce que je me suis beaucoup amusée à l'inventer. Et il y a quelque part l'essai, donc des interrogations à propos de l'acte d'écriture, mais aussi qu'est-ce que c'est que de rejoindre une scène littéraire, qu'est-ce que c'est que d'être dans une maison d'édition. Je vais choisir un extrait. Pour moi, l'écriture, c'est principalement avoir conscience d'où l'on vient, de son histoire personnelle avec ses micro-événements. Je ne peux pas prendre de distance avec le roman. Quand j'écris, mon moi est impliqué. J'ai couché sur papier bien des fantasmes, des pensées individuelles. J'ai eu souvent le sentiment de représenter une communauté masculine, sensible. Mes écrits ont atteint une audience. L'ombre de mon enfance a longtemps plané sur mes textes, influençant ma vision du monde, m'imposant des règles de vie. L'enfance, c'est la première danse. Nos parents nous donnent un rythme à tenir. L'écriture, je la découvre à travers les rencontres littéraires. Au début, celle-ci ressemble à un rêve, des moments chargés qui font naître en moi une personnalité nouvelle. J'ai bien conscience qu'il pourrait ne plus se reproduire. Les lecteurs, par moments, les lecteurs nous montrent que l'histoire ne peut pas être définitivement bouclée. Il est merveilleux de les voir reprendre le fil et le dénouer à leur manière. Chaque lecteur retient son propre moment clé du texte, là où pour lui se joue une catharsis. Mais faire face au public, et particulièrement aux critiques, n'est pas toujours un exercice facile et enthousiasmant. Petit à petit, la joie est balayée, remplacée par une torture psychologique profonde. La prise de parole devient douloureuse. Elle affecte la gorge. Il y a une charge émotionnelle. Comment se protéger de ça? Sur qui s'appuyer quand les retours sont mauvais? Parfois, il vaut mieux ne pas connaître son lecteur. On perd l'énergie. On s'épuise. J'arrive avec un sentiment d'incapacité, m'enfonce dans mon siège, redoutant la sentence. J'attends que ça se termine.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Selma Guettaf fait l'invité ce dimanche matin. Avant la pause, nous venons d'entendre donc Plongeon et autres sauts. C'est un autre titre de vous, Selma Guettaf. Donc on est dans deux écritures différentes, on est bien d'accord? Quel temps prend l'une et quel temps prend l'autre? Autrement dit, un écrivain, on pose souvent cette question basique, c'est le temps de l'écriture, combien de temps on met pour écrire un livre? Oui. Ça paraît, évidemment, ça peut prendre des mois, ça peut être d'un premier jet. Vous, comment?
Oui.
On a dit tout à l'heure que vous écriviez vite, il y avait ce besoin d'écrire vite, mais est-ce qu'on rature? Est-ce qu'on retourne en arrière sur l'ordinateur pour effacer? Parce que là, le manuscrit avait ce charme quand même. C'est qu'on pouvait barrer au stylo et puis on voyait sous la rature.
Oui, oui.
Tandis que sur l'ordinateur, c'est un peu plus compliqué quand
on
a.
On peut le faire, on imprime.
On peut mettre de côté, mais. L'exercice n'est pas le même.
Oui, 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 je suis d'accord. Alors, il y a le premier G, oui, qui est généralement, ça vient vite, c'est l'inspiration, et il faut pas se retenir, justement, il faut écrire, ne pas se poser de questions, ne pas être dans l'autocensure, par exemple, et se dire qu'il y aura ce temps de la réécriture, de la lecture. Et le premier G, c'est comme un fantasme, parce qu'on a envie, justement, que, voilà, au bout de quelques semaines, on ait le manuscrit. C'est super quand ça arrive. Moi, généralement, quand j'écris que c'est le premier G, j'ai découvert que j'écrivais, que j'aimais écrire dans le déplacement. Donc je voyage, je suis dans le train, j'écris dans le train, par exemple, ça me berce et j'aime beaucoup ça. Ça m'aide quelque part à, on va dire, à débloquer cet acte de l'écriture. Je crois que, comme beaucoup d'auteurs, je garde cette anecdote en tête qui concerne Boris Vian, qui, voilà, il a écrit son roman « J'irai cracher sur vos tombes », il me semble, n'est-ce pas, en 2 semaines. Donc, on a envie d'avoir cette
Allez,
recette-là.
Boris Vian.
Mais oui, ça va vite. Il faut bien sûr avoir le temps. Ce n'est pas évident, je pense, pour tout le monde. Mais si on a cette possibilité d'avoir le temps, ça peut vraiment aller vite. Et après, c'est le temps de la réécriture qui va demander une certaine rigueur. Donc, j'ai fini mon texte et maintenant il faut que je travaille. Donc, c'est plus une concentration, un sérieux de ma part.
Cette période-là, elle est autre et elle est plus difficile peut-être.
Oui.
Peaufiner et puis.
Elle est importante,
voilà, trouver.
Parce que le premier G, ce n'est pas le texte. Oui. C'est juste, c'est comme le point de départ. Et c'est vrai qu'il ne faut pas le rater d'une certaine manière. Donc, c'est ça qui va me donner envie aussi, me motiver à revenir vers mon texte et le réécrire, parce qu'il faut beaucoup de motivation pour faire cette réécriture qui peut prendre des années parfois, parce qu'il y a aussi le travail avec la maison d'édition. La maison d'édition va aussi nous accompagner dans ça, mais on est quelque part, quand on finit cette première écriture, on a envie que ça aboutisse et on croit à son idée, en fait. Et donc, la réécriture, c'est, oui, sur ordinateur, et puis on imprime. Je pense que c'est important parce que la lecture, elle est différente sur ce papier. Donc, c'est vraiment important d'imprimer. Ça demande un
peu de revenir sur des choses,
oui,
qui étaient écrites, mais qu'il faut.
Oui, faut pas lire sur sa tablette. Non, il faut imprimer et on rature et on va annoter et on va le faire une quinzaine de fois, une vingtaine de fois. Donc, ça prend beaucoup de temps parce qu'on va réécrire et réécrire encore des chapitres entiers. Et quand on a fini, donc on est entouré de critiques littéraires,
de bienveillance aussi, quand même.
Donc il faut de la bienveillance, bien sûr. Donc de personnes qui ont l'habitude de lire, de commenter, on peut leur envoyer notre texte et on va l'envoyer aussi à sa maison d'édition ou à une nouvelle maison d'édition si on n'a pas d'éditrice, d'éditeur, tout en ayant conscience que même si ça va plaire à la maison d'édition, il y aura encore ce temps de la réécriture.
Parce que l'éditeur, c'est son travail aussi, hein, l'éditeur, l'éditrice, que de renvoyer à la copie l'auteur. L'auteur pourrait penser que ça y est, le texte est génial, il va être publié ou pas. Mais il peut être publié, mais peut-être que l'éditeur, l'éditrice aura aussi besoin d'apporter son regard quand même.
Mais c'est intéressant, moi j'aime beaucoup ça. Autant on parlait de précipitation tout à l'heure et que j'ai caractérisé mon écriture de cette façon-là, autant c'est vrai que moi je fais partie de ces autrices, de ces auteurs qui aiment ce temps de la réécriture, des retours. J'apprends beaucoup des autres, et donc quand une personne est dans le monde littéraire et arrive à m'apporter quelque chose, mais en fait j'aime beaucoup quand je sens que je grandis d'un texte à l'autre. Donc ce moment où l'on échange, c'est comme si on entrait dans un autre monde, parce que tout est un peu suspendu, on quitte un peu son quotidien tout se passe dans ces moments où on prend un café ensemble, on discute du texte, qu'est-ce qui va pas, et on rentre chez soi, on réécrit. Ce sont des moments que j'aime beaucoup vivre.
On aurait longtemps encore à parler avec vous, passionnément, de littérature, Selma Guettaf. Juste pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent et qui auraient quelque part dans un tiroir, parce qu'on a tous et toutes dans un tiroir des morceaux d'écriture, des tranches de vie qu'on a envie de raconter, ou une histoire que l'on se raconte, justement. On peut encourager les à écrire. Vous faites des ateliers d'écriture, vous m'avez dit. Alors, c'est important aussi, ça.
Bien sûr.
Donner envie d'écrire, voilà. Mais tout le monde dit, oh non, je ne pourrais pas écrire. Mais si, on écrit tous.
L'écriture, elle peut être donc multiple. Elle n'est pas toujours, elle ne s'inscrit pas toujours dans une démarche professionnelle de publication ou je ne sais quoi. Elle peut être simplement en fait donc comme un besoin de se libérer de quelque chose ou un besoin de donner son texte, par exemple à son enfant, parce qu'on n'arrive pas à dire certaines choses et que voilà par l'écrit ça passe, ou de le donner à ses parents, je ne sais pas. Donc ça peut être un moyen de communication. Et parfois c'est simplement personnel. J'écris quelque chose parce que j'ai le sentiment que quand j'aurai fini ça, je peux passer à un autre chapitre de ma vie. Et je découvre tout ça à travers effectivement les ateliers d'écriture et les formations que je donne à Kiala Consulting, donc ça se passe à Paris, parce que effectivement je rencontre des personnes qui simplement s'interrogent sur le fait de, quand j'ai une histoire en moi, je la porte, parce qu'il y a un vécu, parce que par exemple, je suis dans une situation d'exil, donc je n'arrive pas à en parler autour de moi et je sens que ce n'est pas juste, que la parole ne suffit pas. Il y a besoin d'écrire parce que quand j'écris, je ne suis plus dans l'immédiateté de la parole. Je suis dans un moment de réflexion, comme quand je lis. Je prends le temps. Ça, c'est important, en fait. Et on voit que ça apporte quelque chose parce que c'est une réflexion. Quand j'écris, j'entre dans une réflexion. On a besoin de ça. Surtout aujourd'hui parce que quand même, même si, enfin, moi, je fais partie de cette génération qui aime les réseaux sociaux, qui est dans les réseaux sociaux, mais on est tellement dans l'immédiateté, c'est fatigue. Et il y a donc besoin vraiment aussi de ralentir, de prendre le temps de la lecture, de lire. Et d'écrire aussi.
Et alors, vous avez le temps de lire ? Qu'avez-vous lu récemment ?
Oui, bien sûr. Donc, je cherche ce temps de la lecture. Je continue à lire Alice Inter, par exemple. Donc, je la lis et je la relis. J'aime beaucoup. C'est une autrice qui m'apporte beaucoup. Mais sinon, je continue aussi à relire Dostoïevski. J'ai cessé de relire Les Frères Karamazov et maintenant, c'est Crime et Châtiment. Parce que je trouve ces personnages d'une complexité incroyable. À chaque fois, je me dis, ça y est, j'ai lu. J'ai pas besoin de revenir et au bout d'un moment j'ai besoin de revenir parce qu'avec Dostoïevski le personnage ne se définit plus, c'est tellement complexe, c'est l'humain en fait, donc j'aime beaucoup ça.
Et quand vous avez fermé le livre que vous lisez, vous passez à l'écriture ou il y aura un livre prochainement, une nouvelle parution?
Alors, quand je finis de lire un livre, j'aime en parler, j'aime en discuter avec des personnes, le recommander. Et pour ce qui est de mon écriture, oui, on peut dire que j'avance en ce moment dans un nouveau manuscrit qui questionne l'immigration, qui questionne l'exil et aussi comment, en fait, on arrive à créer avec ça.
Merci beaucoup, merci infiniment d'être venu ce dimanche matin, Selma Guettaf, nous parler de votre littérature, de vos littératures aussi, et de l'importance d'écrire. Alors j'espère que les auditeurs et auditrices ce dimanche matin auront eu envie de partager votre envie, votre passion. C'est une passion d'ailleurs, on peut le dire comme ça.
Oui, on peut le dire.
Voilà. On ne peut pas s'arrêter, une passion. Voilà, vous anime en permanence. C'est une constante, quoi, là. Écrire est une constante, lire aussi.
Oui, là, on arrive un peu à la fin, mais c'est une passion et je pense que j'arrive à un âge où, quelque part, j'essaie de lui trouver une place, cette passion, de ne pas non plus la laisser, donc de faire en sorte qu'elle déborde pas.
Voilà, qu'elle vous envahisse, c'est ce que j'allais vous demander. Il ne faut pas qu'elle vous envahisse parce qu'il y a autre chose dans la vie qu'effectivement écrire et lire. Merci infiniment de ce rendez-vous dimanche matin. Au revoir à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, Selma Guettaf.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.